VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, heureux de vous retrouver pour une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Jacques Aristide et Anne Albertson en votre compagnie en ce jeudi 26 février 2015. Les gros titres ce matin au Togo, le président Nyasingbe investi par son parti en vue d'un troisième mandat.
En RDC, l'armée congolaise poursuit son offensive contre les rebelles FDLR dans l'est du pays.
À un coin qu'on appelle Kagamwe, il y a une certaine résistance. Il y avait quelques crépitements d'armes, mais sincèrement, la résistance n'est pas réelle.
Au Mali, le nouveau chef coutumier du baston Touareg de Kidal rejette toute idée d'indépendance.
Ici, aux États-Unis, arrestation de trois hommes qui voulaient rejoindre le groupe État islamique.
Et dans la partie magazine, plein feu sur les victimes de l'apatridie en Afrique de l'Ouest.
Alors, Fodeman Saré dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il dit avoir essayé d'obtenir une carte nationale d'identité et le passeport guinéen, mais s'est vu opposer un refus parce qu'il ne parle aucune langue locale.
Ne manquez pas non plus les rubriques habituelles, l'économie et les sports.
Au Togo, c'est sans surprise, Faure Gnassingbé va briguer un troisième mandat à la tête du pays. Au pouvoir depuis 10 ans, le président togolais a été investi hier par son parti. Nicolas Pinault.
C'est à Kara, fief des Gnassingbé, dans le nord du Togo, que le parti présidentiel a tenu sa convention d'investiture. Les 700 délégués de l'Union pour la République ont donc choisi à l'unanimité Faure Gnassingbé comme candidat du parti pour la présidentielle. Le président togolais a pris la succession de son père, le général Gnassingbé Eyadema, c'était en 2005, et on voit mal ce qui l'empêcherait de remporter le scrutin présidentiel à un tour, qui aura lieu le 15 avril prochain. Au moins 7 autres candidats ont déjà annoncé leur candidature, même si l'opposition et la société civile jurent vouloir empêcher cette réélection attendue. Depuis 2002, la constitution togolaise ne fixe aucune limitation des mandats présidentiels depuis que Gnassingbé Eyadema avait supprimé cette restriction. Des violences sont à craindre selon les observateurs. En 2005, les violences électorales avaient fait, selon l'ONU, entre 400 et 500 morts.
Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, 18 personnes ont été tuées depuis le 15 février dans les attaques menées par des miliciens pygmées contre des villages bantous, un bilan établi par l'ONU. Toujours en RDC, l'offensive des FRDC contre les combattants hutu-rwandais des FDLR dans le haut plateau d'Uvira se poursuit. Eddie Sango a joint un député de la région, Justin Bitagiwa.
Les villages ont été vidés. Certains ont fui vers Sangé, d'autres ont fui vers Katalom, Chedereza ou Lemera. Mais je crois que petit à petit, ces FDLR sont en train d'aller plus encore vers les hauts plateaux de Rambo, de Vibangwa ou de Rubuga. On aurait souhaité certainement que les opérations se fassent dans le sens contraire, pour les amener vers la plaine au lieu de les amener encore dans la forêt. Mais ce sont des opérations que nous encourageons. À un coin qu'on appelle Kagamwe, il y a une certaine résistance. Il y avait quelques crépitements d'armes, mais sincèrement, la résistance n'est pas réelle.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a dénoncé hier ce qu'il appelle l'intoxication politique qui entoure le débat sur les apatrides dans le pays, rapporte l'AFP. Il s'agit d'un thème épineux en Côte d'Ivoire où la question de la nationalité a été à l'origine de violences ces dernières décennies. Nous avons lancé une grande campagne de sensibilisation et de remise d'actes de naissance aux personnes nées ou vivant sur le sol ivoirien, a déclaré le chef de l'État à l'occasion d'une conférence régionale sur cette question à Abidjan. Nous reviendrons sur cette réunion ministérielle dans la partie magazine de cette émission.
Au Mali, le nouveau chef coutumier du bastion Touareg de Kidal a catégoriquement rejeté toute idée d'indépendance ou encore d'autonomie du nord du pays. Mohamed Ag Intalla envoie ainsi Salwa Jaafari un message clair de paix envers Bamako.
Mohamed Ag Intalla tourne ainsi le dos aux ambitions séparatistes de beaucoup. 2 mois seulement après avoir succédé à son père, comme Aménokal, le nouveau chef traditionnel des Adrar des Infogas s'est dit contre l'indépendance du Nord pour l'unité territoriale, selon l'agence France Presse. Il va même jusqu'à souhaiter que Kidal devienne capitale du Mali. Ag Intalla prend ainsi délibérément le contre-pied de certains groupes rebelles Touareg, actuellement en négociation avec le gouvernement à Alger, revendiquant l'autonomie d'Azawad. Et pour faire passer son message de paix, le coutumier de Kidal est prêt à sillonner le Mali avec d'autres chefs de communauté. En attendant, la paix reste très fragile dans la région. Depuis l'été dernier, la zone a connu une recrudescence d'attaques, notamment djihadistes, visant les forces maliennes ou étrangères, mais aussi civiles.
Le Programme alimentaire mondial a annoncé hier avoir repris sa distribution de nourriture dans le sud-est du Niger, en situation d'urgence humanitaire, après 2 semaines d'interruption liées aux attaques de Boko Haram en territoire nigérien. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP le porte-parole du PAM au Niger.
La Côte d'Ivoire compte relancer en avril son salon de l'agriculture, suspendu depuis 1999, avec l'espoir d'attirer des investisseurs étrangers. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre ivoirien de l'agriculture, d'après l'AFP. Mamadou Sangafowa Koulibaly est en déplacement à Paris en marge du Salon international de l'agriculture. Son pays est le premier producteur mondial de cacao.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, arrestation hier de 3 habitants de New York accusés de complot visant à soutenir le groupe État islamique et de vouloir assassiner le président Barack Obama. Il s'agit de 2 Ouzbeks et d'un Kazakh, selon le département américain de la justice, qui a précisé que 2 d'entre eux s'apprêtaient à partir en Syrie pour combattre dans les rangs du groupe djihadiste. Ils étaient également prêts à mener des attentats ici aux États-Unis, notamment contre les forces de l'ordre, s'ils ne réussissaient pas à rejoindre l'EI d'après les autorités. Le Kazakh Akror Sadakmetov a été arrêté alors qu'il était sur le point de prendre un avion pour la Turquie à l'aéroport JFK de New York. Son compatriote Abror Habibov est accusé de l'avoir financé en lui payant son billet d'avion. Et le troisième homme, l'Ouzbek Abdulrasoul Hasanovich Jouraboev, avait également un billet d'avion New York-Istanbul et devait s'envoler le mois prochain.
Toujours au sujet de l'État islamique, Washington a condamné hier les enlèvements de masse perpétrés en Syrie et en Irak par le groupe et s'est dit déterminé à mettre un terme à sa dépravation, le terme employé par la porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Comme le rapporte l'AFP, Bernadette Mihan a également condamné fermement les attaques de villages chrétiens dans le nord-est syrien.
Dans une audience hier au Congrès, le secrétaire d'État américain a attaqué indirectement le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou. Pour John Kerry, ceux qui critiquent un éventuel accord nucléaire avec l'Iran ne savent pas de quoi ils parlent. Camille Grosdidier.
L'administration Obama aurait-elle déclenché une offensive contre le premier ministre israélien, invité par l'opposition républicaine à prononcer en mars un discours devant les 2 chambres du Congrès? Le président Obama a déjà indiqué qu'il ne rencontrera pas Benjamin Netanyahou à cette occasion, au motif qu'il ne veut pas s'immiscer dans la campagne pour les législatives prévue le 17 mars en Israël. Mais mardi, sa conseillère à la sécurité nationale, Susan Rice, a estimé sur une chaîne de télévision américaine que le discours de Netanyahou au Congrès allait introduire une partialité destructrice dans les relations bilatérales entre les États-Unis et Israël. Pour sa part, le secrétaire d'État John Kerry a semblé dire aux parlementaires américains que M. Netanyahou ne comprend rien lorsqu'il accuse les grandes puissances d'avoir trahi leur promesse d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. La politique actuelle est que l'Iran n'obtiendra pas l'arme nucléaire, a rappelé M. Kerry. Il n'y a pas encore d'accord et je conseille aux gens d'attendre l'issue de ces négociations. En fait, la Maison-Blanche ne semble pas avoir pardonné au président de la Chambre, le républicain John Boehner, d'avoir invité M. Netanyahou sans consulter le gouvernement.
En Ukraine, le cessez-le-feu semblait tenir dans l'est séparatiste, tel que le rapporte l'AFP. L'armée ukrainienne a fait état d'une baisse considérable des tirs rebelles pro-russes et s'est félicitée du fait qu'aucun soldat n'ait été tué en 24 heures pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 15 février. Le porte-parole militaire ukrainien Andriy Lysenko a toutefois souligné qu'elle n'était pas entièrement respectée. Le secrétaire d'État américain John Kerry a estimé qu'à ce jour, ni la Russie ni les forces qu'elle soutient ne remplissaient leurs engagements contenus dans l'accord de paix de Minsk. Sur le front énergétique, le ton est monté entre l'Ukraine et la Russie, Vladimir Poutine qualifiant de génocide le refus des autorités de Kiev de livrer du gaz aux régions rebelles. Le président russe a également brandi la menace d'une nouvelle interruption des livraisons de gaz à l'Ukraine si Kiev ne paie pas à l'avance les approvisionnements futurs. Et puis, l'actualité économique en Afrique et ailleurs dans le monde, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le secteur privé en Guinée quasiment dans le rouge à cause de l'épidémie d'Ebola et l'économie n'a pas du tout redémarré, a dit à la Voix de l'Amérique le président du groupe organisé des hommes d'affaires. C'est ainsi que les businessmen ont décidé de se retrousser les manches pour distribuer des kits sanitaires aux frontières. Shérif Mohamed Abdallah, président du GOA.
La frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau, c'est 12 heures de temps après le dépôt des kits sanitaires que la frontière a été ouverte. La frontière entre la Guinée et le Sénégal, c'est nous-mêmes qui avons adressé des courriers aux autorités sénégalaises pour qu'il y ait des transbordements au départ. Et puis après, il y a eu l'ouverture des frontières parce qu'il y a eu des dialogues entre les autorités des deux pays. Nous sommes encore à l'intérieur du pays. Nous venons de la frontière entre la Guinée et le Sénégal parce qu'on a fait la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. On est en train de couvrir partout puisque Ebola n'a pas de frontières. Nous aussi, on ne va pas faire de frontières.
Dans une interview sur Le Point Afrique, la présidente du patronat tunisien, Wydad Bouchamaoui, appelle les politiques à créer des emplois. Il est normal après une révolution de passer par une baisse des indicateurs économiques, a-t-elle dit, ajoutant qu'il est temps de se remettre au travail pour répondre aux attentes des jeunes qui étaient à l'origine de la révolution tunisienne. Les pays d'Afrique subsaharienne vont accélérer les investissements des programmes d'éducation et de santé pour réduire les inégalités. Les participants au Forum du développement social à Nairobi ont rappelé que la pauvreté endémique entrave le développement du continent dans son ensemble.
C'était la Minute Éco. Merci Nathalie. Sans plus tarder, le billet sportif avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jacques.
Le Burkina Faso a un nouveau sélectionneur.
L'Allemand Gernot Rohr a été nommé par la Fédération Burkinabé de football. Rohr, 61 ans, ancien sélectionneur du Gabon et du Niger, remplace le Belge Paul Put qui a convenu avec la Fédération Burkinabé d'une séparation à l'amiable. Les détails tout de suite avec notre correspondant à Ouaga, Salif Kabore.
Le nouvel entraîneur des étalons de Burkina Faso, Gernot Rohr, a un contrat de 2 ans et l'objectif majeur et immédiat à lui assigné par la Fédération Burkinabé de football est la qualification des étalons à la CAN 2017. Sous le choix de ce coach, seul observateur du football burkinabé réagit.
C'est un entraîneur que tout le monde apprécie beaucoup. Donc moi je pense que vraiment c'est un gars, il est compétent, il travaille vraiment voilà, pour aboutir à quelque chose.
Mais pour certains, le changement d'entraîneur n'est pas seulement la solution.
Quand vous regardez la performance de nos joueurs, même dans leur club, actuellement, vraiment ça ne va pas. Les joueurs qui jouaient, qui étaient titulaires dans les clubs, maintenant même là, il y a d'autres même qui ne sont même pas sur la feuille du match, même dans les matchs.
Gernot Rohr, reparti en Allemagne dans la nuit de lundi à mardi dernier, aurait eu des échanges pas très agréables avec Stéphane Keshi, candidat malheureux après leurs auditions par les membres du comité de désignation de la Fédération Burkinabé de football. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Cannes des moins de 17 ans au Niger.
La première demi-finale entre l'Afrique du Sud et le Nigeria a tourné à l'avantage des Sud-Africains qui l'ont emporté 1-0. En finale, ils rencontreront le vainqueur de la deuxième demi-finale ce jeudi, la Guinée ou le Mali.
En Europe, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, eh bien Monaco s'est offert un exploit face à Arsenal en l'emportant 3-1. Quant au Bayer Leverkusen, il s'est imposé 1-0 face à l'Atlético Madrid. Et Nicolas, on jouera ce jeudi en Ligue Europa.
16e de finale retour, les clubs reversés de Ligue des Champions n'ont pas la vie facile en Europa League. La Roma de Gervinho voudra éviter l'accident industriel face à Feyenoord Rotterdam, 1-1 à l'aller. Liverpool devra conserver son mince avantage, 1-0, sur la pelouse du Beşiktaş. Tottenham est également dans une position inconfortable après son match nul à Londres face à la Fiorentina, 1-1. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu demain à Nyon, au siège de l'UEFA.
La Coupe du Monde 2022 au Qatar se jouera donc en hiver et la FIFA reste ferme.
Il n'y aura pas de compensation financière. Il y a 7 ans pour s'organiser. C'est ce qu'a dit Jérôme Valque, le secrétaire général de la FIFA, ce mercredi à Doha, face aux clubs européens qui grognent à la perspective de ce mondial en 2022. Même si la solution n'est pas parfaite, nous ne faisons rien qui puisse détruire le football, a déclaré le numéro 2 de la FIFA lors d'un point de presse du comité d'organisation locale du mondial. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de NBA. Le championnat de basket nord-américain.
Oui Nicolas, les Hawks d'Atlanta l'ont emporté 104-87 face aux Mavericks de Dallas, privé du garde Rajon Rondo, suspendu par l'équipe. Ailleurs dans la NBA, Miami 93, Orlando 90, New York 94, Boston 115, Charlotte 86, Chicago 98, les Clippers 105, Houston 110, Philadelphie 88, Milwaukee 104, Phoenix 110, Denver 96, les Lakers 100, Utah 97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Jacques Aristide au micro. Le Monde aujourd'hui se poursuit avec la tranche magazine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a tenu sa première conférence ministérielle sur l'apatridie cette semaine à Abidjan. Les apatrides, ce sont ces personnes qu'aucun État ne considère comme leurs ressortissants. L'Afrique de l'Ouest en compte 750 000 victimes. D'après l'ONU, c'est le cas notamment d'un grand nombre de réfugiés sierra-léonais à Conakry qui disent que la Guinée et la Sierra Leone refusent de les reconnaître en tant que citoyens. Un éclairage ce matin avec Lionel Gaïma.
La Guinée a des règles strictes pour délivrer un passeport ou la carte nationale d'identité. Tout requérant doit être capable de parler une langue locale et décliner le village de ses parents. Sékou Touré Ahmed, adjoint au maire de Conakry, la capitale, explique que la loi vise à éviter les fraudes et selon lui, la police a arrêté plusieurs personnes récemment.
Aujourd'hui, l'autorité guinéenne a mis en place un comité de supervision et de surveillance. Pour obtenir donc le passeport, vous êtes obligé de passer par ce comité. Et ce comité d'interview consiste à savoir de vous si vous êtes guinéen et notamment en vous exigeant à parler une de nos langues du terroir. Clairement parler et même allant dire un proverbe dans sa langue de terroir pour nous permettre de savoir si véritablement vous êtes du pays. Nous avons connu pas mal d'Africains qui passaient par la Guinée. Vous savez que la Guinée est un pays d'hospitalité. Mais cependant, d'autres profitent de l'hospitalité guinéenne pour en faire autre chose.
Mais la loi touche également des gens qui ne sont pas des fraudeurs, comme par exemple les Guinéens qui ont vécu ou ont grandi à l'étranger et qui décident ensuite de rentrer chez eux. Les réfugiés qui ont fui la guerre civile en Sierra Leone et qui vivent en Guinée depuis plus d'une décennie sont privés de papiers. Fodé Mansaré, un coiffeur de 40 ans, est né en Guinée, mais ses parents ont déménagé en Sierra Leone quand il avait 2 ans. Ses deux parents sont morts pendant la guerre. Fodé Mansaré dit qu'il ne sait pas quoi faire. Il dit avoir essayé d'obtenir une carte nationale d'identité et le passeport guinéen, mais s'est vu opposer un refus parce qu'il ne parle aucune langue locale. Il se débrouille en tant que barbier pour survivre, mais n'a pas été en mesure de trouver un meilleur emploi à cause de la barrière de la langue. Une autre victime de l'apatridie, Mbalou Konté, qui a eu 6 enfants avec son mari guinéen, elle s'est réfugiée en Guinée après la mort de son époux dans la guerre. Elle raconte qu'ils sont victimes de discrimination. Pour Mbalou Konté, la famille de son mari les a rejetés parce que les enfants ne parlent pas leur langue. Elle se dit confuse, mais elle n'est pas retournée à Sierra Leone parce que les enfants y étaient livrés à la rue. Elle se plaint de ne pouvoir envoyer ses enfants à l'école en Guinée et quand ils tombent malades, ils sont ignorés par les personnels hospitaliers. Les Nations Unies affirment que la plupart des apatrides vivent cette triste réalité. Le traumatisme qui en découle dure toute une vie. Sans bulletin de naissance ou pièce d'identité nationale, ils ne peuvent pas s'inscrire à l'école, se marier, ouvrir un compte en banque ou devenir propriétaire terrien. Les perspectives d'emploi sont limitées et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le ACR, appelle à une réponse régionale à l'apatridie en Afrique de l'Ouest.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Autre événement régional, des experts sur la cybersécurité venant des 10 États membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale se sont réunis au Cameroun pour discuter des moyens à mettre en œuvre pour combattre la criminalité sur le net. Le correspondant de la VOA à Yaoundé, Edwin Mokikinzeka, y était. Son reportage nous est présenté par Chérubin Dorsil.
Selon les membres de la CEAC, la menace terroriste est très élevée. Ils ont donc convenu d'améliorer leur coopération et de s'engager davantage au niveau organisationnel dans la lutte contre les crimes électroniques. Les autorités camerounaises sont en train d'enquêter sur un réseau de cybercriminels qui ont eu accès à des systèmes informatiques et des réseaux divers, piratant des comptes individuels et des banques. Ils ont pu ainsi détourner des millions de dollars, nous dit Ntangbay Emile de la police judiciaire du Cameroun.
De plus en plus, les guichets automatiques sont la cible des cyberattaques. Nous avons des gens, j'ai eu à déférer des Nigériens, des trois Nigériens, qui sont venus uniquement pour épier les comptes. Et ça, c'est des opérations courantes depuis 2012. Ils partent du Nigeria, ils partent du Ghana pour venir perpéter des actes au Cameroun à partir des cartes blanches qu'ils insèrent dans le guichet automatique. Il leur permet de copier les pistes des cartes préalablement utilisées par les utilisateurs sains.
Pour Marcel Ambiana Belenge, représentant la Commonwealth Telecommunication Organization, à ce forum, la cybercriminalité en Afrique centrale n'est plus simplement une menace économique. La sécurité des nations et des États est un problème qui prend de l'ampleur. Le piratage est l'un des problèmes, sans oublier le cyberespionnage, même la perte de données. Il y a au moins 800 millions de personnes dans le monde qui ont été victimes de vols d'identité au moins une fois, déclare Marcel Ambiana Belenge. Quant au gouvernement d'Afrique centrale, leur vulnérabilité croissante vis-à-vis de la cybercriminalité est un résultat de manque de main-d'œuvre, d'équipement et de systèmes de détection, selon Jean-Jacques Massina, directeur de la zone Afrique centrale à l'UIT, l'Union internationale des télécommunications.
Là où les réseaux sont les plus faiblement sécurisés, c'est là où ils vont opérer. Et c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle les pourriels, le spamming, tous les courriers que vous recevez sur vos boîtes qui ne sont pas désirés. Et bien, ce sont des tentatives d'intrusion des réseaux. Et donc nous luttons contre tout ça, le spam, le phishing, le vol d'identité, le détournement de codes bancaires, les transactions financières et commerciales.
D'où la nécessité d'introduire des méthodes de détection plus performantes et de former les utilisateurs des réseaux publics afin de mieux combattre le piratage informatique et les crimes commis sur le net en général. Les 10 pays participants à la conférence de Yaoundé se sont engagés à le faire et aussi à poursuivre et juger les éventuels coupables.
L'Afrique connectée, c'est le thème de Washington Forum. En quoi l'explosion des téléphones connectés à Internet a changé la vie des Africains? Les smartphones sont partout sur le continent, parlons-en. Laissez vos questions et commentaires sur notre page Facebook. Washington Forum, ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Élaborer une feuille de route régionale pour une paix durable dans la région des Grands Lacs, c'était le thème ambitieux d'une table ronde tenue récemment à Kigali au Rwanda. Les participants, dont des représentants gouvernementaux et d'ONG, sont venus de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. Les points saillants avec notre correspondant Primo Pascal Rodaïgua.
Les participants à cette rencontre de deux jours ont passé au peigne fin des propositions de la feuille de route régionale vers la paix durable dans la région des Grands Lacs. Propositions venues de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Joséphine Kusila est du programme Starek au Sud Kivu en RDC.
Il y a de ces dynamiques de conflits qui vont au-delà des frontières et qui affectent les populations transfrontalières. Et je souhaite que cette feuille de route puisse arriver à un niveau d'appropriation au niveau des gouvernants et au niveau des autres membres des populations qui ne seraient pas représentés ici.
Pour Thérèse Mukaruzika, qui travaille dans le programme Paix et Réconciliation au Rwanda, il faut penser à une synergie des différents acteurs pour la réussite de cette feuille de route.
Nous devons mettre nos efforts ensemble pour arriver à un impact palpable. Quand il y a des conflits dans l'un des pays, ça se répercute dans l'autre. Donc nous devons travailler ensemble pour la promotion de cette paix durable et le développement de nos pays, les institutions public et la société civile, tout le monde.
Le président du comité de la jeunesse des pays des Grands Lacs, Mutiki Kilumba, appelle les jeunes à mettre de côté les stéréotypes véhiculés par des politiciens en mal de positionnement.
Il y a trop de stéréotypes qui ont circulé et que quand on se côtoie, il y a beaucoup de stéréotypes qui tombent de soi. On demande à la CPGL d'arriver à ouvrir les frontières, à faciliter la circulation des personnes et de leurs biens, que les États travaillent pour ça. Dès que les gens ont des intérêts communs, ils se côtoient et beaucoup de choses tombent de soi.
Une équipe technique continue à travailler sur cette feuille de route afin d'intégrer les amendements proposés par les participants. Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Au Niger, les habitants de Bosse, dans l'extrême est du pays, ont été contraints à abandonner leur village après les combats début février opposant les troupes nigériennes et tchadiennes aux islamistes du groupe nigérian Boko Haram. La plupart d'entre eux sont partis vers Diffa en compagnie des réfugiés qui ont fui le Nigeria à cause de Boko Haram et qui avaient initialement été abrités à Bosse. Du coup, c'est une situation qui se corse. Pour en parler, Driss Fall a recueilli le témoignage d'un responsable humanitaire originaire de Bosse, maintenant basé à Diffa. Nous écoutons Aboubakar Mustapha Ligari.
Bosse est devenue une ville fantôme parce qu'aucun paysan n'est vu maintenant là-bas. Il n'y a que des militaires. Après, dynamite qui a explosé sur les militaires là, donc les militaires ont demandé à la population de quitter le village. Actuellement, la population est déplacée sur Yébi à 3 km au nord de Bosse et ils vivent très très mal. Ils n'ont pas de médecins, ils n'ont pas d'abri, pas d'eau potable, des enfants non accompagnés.
Bosse comptait combien d'habitants auparavant?
La ville de Bosse, je connais pas, mais le département de Bosse compte à peu près 63 000 habitants. Les réfugiés. Maintenant, avec l'afflux des réfugiés, vous imaginez un peu. C'était une vie très difficile qu'on menait dans la ville de Bosse. Mais comme vous le savez, en Afrique noire, c'est bien normal qu'on accueille nos parents qui ont quitté leur pays dans un problème critique que tout le monde le sait.
Mais il n'y a pas de camp de déplacés et de camp de réfugiés dans la région?
Il y a un camp à plus de 50 km de la frontière dans un village qu'on appelle Kablewa. Mais les réfugiés venus du Nigeria ne veulent pas partir parce qu'ils n'en croient pas du tout à propos du camp. Malheureusement, il n'y a pas eu de sensibilisation jusqu'à l'attaque de Bosse parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. C'est pourquoi ils ne veulent pas aller. C'est un truc volontaire d'aller dans le camp. Donc ils ont préféré rester tout autour du village de Bosse.
Et ils vivent comment alors?
Oh là, c'est très difficile aussi, mais comme vous le savez, la population nigériane se débrouille pas mal. Et ils vont sur le lit du lac Tchad, là où il y a l'eau, ils travaillent pour les pêcheurs ou les agriculteurs pour pouvoir nourrir leur famille. Et puis les femmes font des trucs de AGR, faire des beignets ou autre chose pour pouvoir vendre et rembourser les commerçants.
Mais pour acheter, il faut de l'argent.
Actuellement, il n'y a pas d'argent parce que tout est bloqué. Moi, j'ai su à Diffa. J'ai quitté le département de Bosse très difficilement parce qu'il n'y avait pas le transport, les motos ne circulent plus compte tenu de l'état d'urgence. Et ça nous va droit au cœur, c'est pour notre sécurité, mais vraiment, les pauvres, les démunis, en tout cas, ils souffrent beaucoup.
L'état d'urgence a été prolongé hier en Conseil des ministres. Comment est-ce qu'on vit ça dans la région de Diffa?
C'est mieux, mais c'est très difficile. Mais on comprend que c'est juste pour nous protéger, on comprend très bien, mais c'est très difficile de le vivre.
Aboubakar Mustapha Ligari, membre du comité d'action humanitaire, joint à Diffa au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Aux États-Unis, c'est toujours l'impasse à Washington entre le président Barack Obama et ses adversaires républicains au Congrès. Leurs différences sur les politiques d'immigration du pays restent entiers, alors que le financement du super ministère de la Sécurité intérieure doit prendre fin vendredi à minuit. Michel Joseph.
Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, veut des votes séparés sur le budget de 40 milliards de dollars du ministère et l'abrogation des décrets de M. Obama qui empêcherait l'expulsion de plus de 4 millions de sans-papiers. Mais à la Chambre des représentants, que contrôlent également les républicains, son homologue John Boehner n'est pas prêt à accepter un découplage. Il a dit ne pas savoir ce que le Sénat est capable de passer, ajoutant que la Chambre basse a déjà fait son travail pour financer le ministère de la Sécurité intérieure et arrêter les tentatives du président d'outrepasser ses pouvoirs sur l'immigration. Pour sa part, la minorité démocrate au Sénat veut obtenir de M. Boehner des assurances que la Chambre approuvera le budget du ministère avant d'accepter la proposition de vote séparé de M. McConnell sur les politiques d'immigration du président Obama. Les sénateurs démocrates ont bloqué à 4 reprises les tentatives de la majorité républicaine d'avoir un vote sur la mesure déjà approuvée par la Chambre des représentants.
Et voilà donc, ainsi s'achève ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson était à la réalisation. John Ellison assurait la partie technique. C'était Jacques Aristide au micro. Merci de votre attention. Merci de nous avoir accueillis une fois encore chez vous ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée de mercredi sur la VOA. Take care.
au cœur de l'info sur VOA.